a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, gros plan sur l'immigration aux États-Unis. La caravane des migrants attend à la frontière mexicaine pour rentrer aux États-Unis. Le président Trump a tenté d'interdire les demandes d'asile de personnes entrées illégalement sur le territoire américain, mais un juge fédéral a bloqué le décret présidentiel. En attendant, les forces américaines sont massées à la frontière pour empêcher une éventuelle entrée en force des migrants. Comment comprendre cette situation? Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Alors, notre expert ce soir, c'est Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington. Bonsoir, Emilio.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous. J'enchaîne tout de suite sur la première question. La tension s'est accentuée jeudi à Tijuana, au nord-ouest du Mexique, où plusieurs centaines de migrants de la caravane ont manifesté près du poste frontière. Que demandent ces migrants? Pourquoi est-ce qu'ils manifestent?
Bien, les migrants, naturellement, manifestent pour pouvoir entrer aux États-Unis, être accueillis et présenter sa demande d'asile comme des réfugiés politiques. Il y a une réaction négative de la part de certains Mexicains résidents de cette ville, Tijuana, partiellement parce que, naturellement, c'est la ville qui, quelquefois, doit recevoir milliers de migrants et là, naturellement, le coût et des dégâts et, naturellement, des personnes différentes d'eux qui mangent même différemment, qui se vêtent différemment, qui sont très fatigués, qui, quelquefois, peut-être, ne se comportent pas très bien. Et naturellement, particulièrement dans le quartier le meilleur de Tijuana, on n'accueille pas ce type de personnes très facilement. Mais enfin, la question, c'est la demande d'asile de la part de ces immigrants de Guatemala, Honduras, Salvador, demandeurs d'asile qui fuient la persécution, particulièrement parce qu'il y a beaucoup de violence. Honduras, par exemple, c'est un des pays plus violents du monde, du planète, mais il y a aussi des migrants économiques qui cherchent une vie meilleure.
Mais alors, où le président promet d'endiguer l'immigration vers les États-Unis, cette caravane apparaît presque comme une provocation, non?
On l'a présenté comme ça, particulièrement par le président, et c'est vrai que les républicains ont beaucoup essayé de profiter de cette description. Le président a parlé fréquemment du fait que parmi ces immigrants, il y a bien des criminels, il y a même peut-être des terroristes, des personnes du Moyen-Orient, quoique il n'y a aucune preuve que ça, c'est la vérité. Naturellement, comme dans tout le monde, dans toutes les situations, il y aura quelqu'un qui n'est pas une personne très honorable, mais ça, c'est la réalité de la vie. Mais la description des républicains, particulièrement du président, qui a fait de cette caravane un point central de sa campagne pour les récentes élections, n'est pas correct parce qu'il n'y a aucune preuve qu'ils sont en majorité des criminels. Il y a naturellement la possibilité, on a essayé naturellement d'utiliser ça pour donner aux républicains un avantage dans les élections, mais comme nous le savons, au moins pour la Chambre des députés, les démocrates l'ont emporté.
Alors, je vous propose, Emilio Viano, qu'on prenne un de nos auditeurs. Il s'agit de Hassan Omar, qui est à Djibouti. Bonsoir, Hassan.
Bonsoir et bonsoir à Nancy aussi.
Alors, j'imagine que vous avez un commentaire ou une question. On vous écoute.
Moi, j'ai des commentaires et j'ai une question aussi. D'abord, je crois que ce qui est très important ici, et l'immigration, c'est quelque chose qui a même le fondement des États-Unis. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire, les États-Unis s'est créé, si on peut dire, s'est fondé ou s'est basé sur cette immigration. Donc, les institutions américaines ne s'opposent pas. Mais il y a Trump qui est présent actuellement, qui est un président trop nationaliste ou radical, qui s'oppose. Mais moi, ce que je propose dans cette situation-là, il faut créer, voilà, par exemple, une institution ou une commission qui est propre à accueillir ceux qui rentrent dans les domaines d'accueil des gens qui sont en exil et voilà, de rejeter les autres. Donc, mais la question qui est très importante que j'aimerais poser, c'est qui aura la force ou voilà, qui aura le dernier mot entre les institutions américaines et Trump sur cette immigration massive qui vient d'arriver sur les frontières, près des frontières américaines.
Alors, Emilio Viano, c'est une vaste question. Qui aura raison à la sortie, d'après vous? Ceux qui sont favorables à l'immigration ou ceux qui sont contre? Qui va gagner? Allô, Emilio Viano?
Allô, oui.
Oui. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu la question de notre auditeur?
Oui, je pense que oui. Il a demandé... Et quelle sera la conclusion de tout ça si ce qui favorise l'immigration, qui est au fondement de la République des États-Unis, ou ce qui s'oppose, oui. Si j'ai bien entendu.
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, je dis que c'est vraiment l'affrontement de deux forces colossales qui traversent la politique américaine. D'un côté, le président Trump et les républicains qui font du miel de cette caravane qui arrive, on dit, de l'Amérique centrale, et un nouveau corps électoral qui a été, en réalité, gonflé à bloc des femmes démocrates cette fois, qui ont joué un rôle très important sur les résultats. Le président dit même qu'il va annuler un article de la Constitution, par exemple, même, qui donne le droit à ceux qui sont nés sur le sol des États-Unis, dans le pays, d'être citoyenne américaine. Et le président a dit qu'avec un décret, elle peut changer ça, éliminer cet attractif, si vous voulez. Et il est vrai que peut-être il y a des fois des personnes qui viennent ici pour donner naissance à ses enfants et le faire citoyenne américaine. On dit qu'en Californie du Sud, il y a même des hôtels qui sont spécialisés pour ça avec les Chinois. Mais enfin, le président n'a pas le pouvoir de changer la Constitution simplement avec un décret. C'est la Constitution, c'est la carte fondamentale du pays, on ne peut pas le faire, au moins qu'on accepte un gouvernement autoritaire, même une dictature. Mmh. Et alors, il y a ici cet empruntement avec les deux positions. Je crois qu'en peine, maintenant, avec une décision du juge dans l'ouest du pays, que les États-Unis doivent encore accepter la demande d'asile de ces réfugiés et de l'accepter même s'ils ne se présentent pas dans un lieu d'entrée aux États-Unis accepté par le gouvernement. Parce que c'est la position de Trump, que s'il entre dans le pays, mais pas par une entrée officielle, il ne peut pas présenter sa demande d'asile et doit être renvoyé au Mexique. Et un juge fédéral a décidé que ça n'est pas constitutionnel. Et le juge dit que ce n'est pas la loi des États-Unis. On voit maintenant le président attaquer très férocement le juge de cette région du pays, le 9e circuit, comme on l'appelle, et on verra à la fin cette colossale dispute et désagrément entre le président de la Cour suprême Roberts est le président des États-Unis.
Mmh. Alors, on va retourner à Tijuana. Hein. Les forces armées américaines s'entraînent pour repousser une éventuelle entrée en force de ces migrants. On a environ 9000 militaires américains qui sont déployés à la frontière avec le Mexique. Est-ce que c'est une démonstration de force ou est-ce que les migrants pourraient vraiment tenter un passage en force? Ça paraît difficile à imaginer.
Oui, c'est vrai que le Pentagone, sur demande du président, a autorisé le déploiement de plus de 5 000, on parle de 9 000 soldats, même 15 000, on dit quelquefois, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est une opération qui devrait permettre de renforcer les postes frontières de Texas à la Californie et apporter aussi un soutien logistique aux agents du service de douane et de la protection des frontières dans d'autres zones moins bien protégées. Le président, maintenant, a aussi déclaré qu'ils peuvent utiliser la force, même la force de ses rifles, de ses armes à feu, dans cette situation. Cette déclaration aussi est contre la loi américaine, parce que la loi américaine ne permet pas à l'armée d'exercer une fonction de police dans le territoire du pays. C'est pur que, clairement, l'armée ne peut pas prendre le pouvoir, ne peut pas faire, si vous voulez, un coup militaire. Il doit être limité à défendre le pays à l'extérieur. Mmh. Et c'est un autre problème qu'on a maintenant, parce que le président continue à insister qu'ils peuvent utiliser ces armes à feu contre cette caravane, et même s'ils tirent seulement de pierre. Il a dit, s'ils tirent de pierre, vous devez le considérer un fusil et répondre avec votre fusil. Ça, naturellement, n'a pas été accepté très bien à l'extérieur, mais même aux États-Unis, parce que représente naturellement une réponse excessive à ce que cet immigrant veut faire. C'est un peu exagéré, il semble, mais on doit aussi prendre en compte que cette caravane, cette immigration, l'envoi des soldats des États-Unis a été une politisation de cette question. C'est-à-dire qu'on a utilisé ça pour animer, pour donner d'énergie aux électeurs qui favorisent le président. Et il a été utilisé comme une pile pour gagner les élections. Il n'a pas fonctionné avec la Chambre des députés. Il a fonctionné jusqu'à un certain point avec le Sénat, où les républicains continuent à maintenir la majorité dans le Sénat.
Mais enfin, ça reflète quand même de réelles préoccupations d'une partie des Américains. Les États-Unis attirent beaucoup de migrants. Et en face, cela inquiète certains. Est-ce que vous le comprenez?
Oui, c'est ça, naturellement, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a cette différence, n'est-ce pas? Par exemple, la Chambre des représentants qui commencera le mois de janvier est très différente de celle d'aujourd'hui, du Sénat, est rajeunie, est féminisée, est plus diverse. Il reflète, si vous voulez, la poussée enregistrée dans des zones périurbaines américaines qui ont été réellement parcourues par la vague dans laquelle on a parlé beaucoup, que les plus optimistes démocrates naturellement appelaient de leur voix. C'est-à-dire qu'il y a un changement et une division encore plus profonde entre les Américains, particulièrement entre les femmes avec des diplômes, des études supérieures et les hommes blancs sans diplôme. C'est une différence très profonde, encore plus profonde qu'auparavant, dans ce changement, dans cette Chambre des députés, de laquelle nous devrions être très orgueilleux parce que c'est très, très différent. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de minorités, même des Amérindiennes et des islamistes, des femmes islamistes et des autres qui représentent une diversité de la société qui n'a jamais existé au Congrès des États-Unis. Mmh.
Alors le président américain Donald Trump menace également de fermer toute la frontière entre les États-Unis et le Mexique, y compris aux échanges commerciaux. Est-ce que c'est réaliste ça, Emilio Viano?
Ça serait un désastre économique complet pour le Mexique, mais aussi pour les États-Unis. Parce que aux États-Unis, on dépend beaucoup du Mexique dans bien d'endroits économiques. Et n'est pas seulement la nourriture, particulièrement quand nous entrons dans l'hiver, et on dépend du pays plus chaud pour obtenir bien de produits, de légumes, etc., pour le consommateur, pour manger. Mais enfin aussi des produits mécaniques, par exemple les autos. La production des autos au Mexique est très, très grande, particulièrement dans l'État, par exemple, de Guanajuato, dans la ville de León, Guanajuato même. Et il y a continuellement une contribution très, très grande du Mexique au marché des autos aux États-Unis et d'autres, naturellement, industries. Ainsi que si on ferme la frontière, ça serait une crise économique très grave pour le Mexique, naturellement, mais aussi pour les États-Unis. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. Il ne serait pas favorable à Trump parce qu'il crée des problèmes très sérieux, même dans le marché des actions à New York, et le pouvoir du dollar, qui ont considéré une monnaie menacée par cette crise économique. Je crois qu'il ne va pas le faire, parce que peut-être un jour, symboliquement. Ouais. Mais si on continue, ça serait un vrai désastre économique, parce qu'il y a une union économique très profonde maintenant entre Canada, États-Unis et Mexique. Le président ne veut pas l'accepter. Il se déclare nationaliste, pas globaliste, mais on pourrait dire que la nation maintenant, ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas plus seulement les États-Unis, c'est aussi le Mexique et le Canada.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette caravane, hein, donc ces migrants qui fuient leur pays, notamment beaucoup d'entre eux le Honduras, qui parcourent des kilomètres, des pays entiers. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont regroupés en caravane? Quel est l'intérêt de cela?
Ils se sont regroupés en caravane, je pense, pour des raisons, par exemple, de sécurité, parce que, naturellement, particulièrement les femmes et les enfants, peut-être victimes de viols, il y a beaucoup de ça, même en caravane, et des autres crimes, et même les hommes, naturellement, parce que c'est un voyage très dangereux. Nous savons que l'Amérique centrale est une région très, très, très violente. Il y a beaucoup de gangs, de groupes de criminels, de trafic de drogue, et même, malheureusement, au Mexique, qui a un tas d'homicides vraiment très, très haut. Et suivre cette voyage à pied de milliers de kilomètres n'est pas facile. Mm-hmm. et il est plein de possibilités de victimisation. La sécurité. Le deuxième aspect, c'est naturellement l'aide de groupes qui favorisent les réfugiés et qui vont provoquer d'aide, d'assistance, de nourriture, de l'eau, et aussi d'orientation pour eux. Et troisièmement, il y a, comme on dit même en anglais, un certain niveau d'importance, de force, quand il y a un nombre de personnes très grand, n'est-ce pas? S'il y a beaucoup de monde, on fait plus attention à eux. Et c'est une croyance très normale dans le monde, que si vous voulez quelque chose, c'est mieux si vous n'êtes pas seul. Mm-hmm. Et s'il arrive dans cette façon, c'est aussi plus impressionnant, si vous voulez. Mais comme nous savons, il y a beaucoup de gens qui désistent pendant le voyage. Il n'est pas que tout le monde arrive. Aussi parce que le Mexique, il donne la possibilité de demander asile dans le Mexique, et il va à donner des aides financières, d'abri, et peut-être même d'emploi. Il y a bien d'emploi au Mexique parce que c'est une économie assez forte, particulièrement au nord, la zone de Tijuana, et comme je dis, Guanajuato, avec une grande industrie des autos. Mais le Mexique veut limiter les émigrés au sud du pays, dans des régions très pauvres, le Chiapas, par exemple, où il y a eu beaucoup de conflits entre les Amérindiens, si vous voulez, et le Mexique officiel. Mais enfin, je crois que la caravane, c'est une façon de l'attraction de l'attention des médias,
oui,
et aussi pure, comme je dis, sécurité particulièrement, que c'est très, très important pour un voyage très dangereux.
Oui. Alors, vous avez déjà commencé à toucher, un petit peu pointer du doigt ce qui va être ma prochaine question. Hein. Le président avait bien averti ces migrants que des mesures seraient prises pour empêcher leur venue aux États-Unis. Pourquoi persister? Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas l'asile au Mexique? Puisque vous avez dit qu'ils ont la possibilité de le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit.
Oui, et je dis que c'est vrai que le gouvernement mexicain a proposé des titres de séjour provisoire, une couverture médicale, de l'éducation pour les enfants, du travail, à condition qu'ils déposent, si vous voulez, des demandes d'asile dans les états de Chiapas et de Oaxaca, au sud du pays. Et ils sont des états très, très pauvres. Il y a pas vraiment une grande possibilité d'emploi parce que ce sont des zones rurales, avec des forêts, et ils n'ont pas réjoui d'un développement industriel comme le nord du Mexique, par exemple, la ville de Monterrey dans l'état de Nuevo León, qui a beaucoup, beaucoup d'industries.
Les opportunités ne seraient pas les mêmes.
Oui, ce n'est pas le même. Il y a bien d'eux qui l'ont fait. Plus de milliers d'une de ces caravanes d'entre eux ont fait des demandes dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'asile même en Mexique, qui est très importante. En 2013, il y avait 1300 demandes d'asile au Mexique. Maintenant, il y a presque 15 000 au Mexique. Ainsi, comme vous pouvez voir, il y a bien des gens qui veulent rester parce que vraiment ils ont peur dans leur pays. Et ce sont des pays très, très violents. Il y a des groupes criminels très forts, particulièrement une gang qui s'appelle MS-13, qui a aussi naturellement de membres aux États-Unis, particulièrement dans le sud de la Californie, et même ici à Washington, il y a bien d'eux dans la banlieue, particulièrement de Washington. Il y a eu des homicides de filles ici près de Washington, dans le Maryland, très, très, très cruel, très, très impressionnant. Et ces gens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas exister. Et il y a une violence incroyable. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent, au minimum, quelqu'un, de vivre au Mexique dans des conditions de pauvreté, en réalité, pour éviter cette violence. Et c'est ça qu'on ne comprend pas très bien ici aux États-Unis. On pense toujours que ce sont des migrants économiques. Il y en a, naturellement. Et tout le monde cherche une vie meilleure. Et enfin, ça c'est un peu l'ironie et la tragédie de ce qui se passe, parce que, si je peux le dire, le président Trump est de première génération américaine de la part de sa mère.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que sa mère était une immigrante. Et elle était arrivée du nord de l'Escocie. Elle ne parlait même pas l'anglais. Elle parlait l'idiome local de l'île dans laquelle...
Oui. Ah, allô? Est-ce que... Oui, pardon, je ne vous entendais plus.
Oui, je disais seulement que c'est ironique parce que le président même est de première génération américaine de la part de sa mère et seconde génération de la part de son père. Son grand-père est arrivé du sud de l'Allemagne.
Oui.
Et ça serait très positif pour lui de souligner ça.
Oui. Ben écoutez, merci beaucoup, hein, Emilio Viano, pour votre analyse. Merci à tous nos auditeurs. À la production, on avait donc Cheikh Thiro, Morgane Guiriec à la présentation. À bientôt.